Bonjour à tous et bienvenue sur le Comics Weekly, épisode 31, dernier Comics Weekly de l'année. Je suis avec...
Histoire on est Benny.
Et je suis Steve. Comme d'habitude, tu allais dire quelque chose ?
Non, j'allais dire dernier de l'année, effectivement, donc bonne fête encore une fois à tous pour ceux qui nous écoutent durant les fêtes.
Alors pour nous actuellement c'est plutôt joyeux Noël puisque nous sommes le 25, mais au moment où vous écouterez ça, ce sera plutôt bientôt bonne année. Quoi.
Voilà.
Comme d'habitude, on commence par le numéro de la semaine. On va faire un épisode assez court puisque c'est les vacances et que voilà, on n'a pas tous énormément de temps, autant vous de l'écouter que nous de l'enregistrer. Donc on fait ça très très vite. Donc numéro 31 de la semaine, je commence avec le Nightwing numéro 31, et écrit par Chuck Dixon, Scott McDaniel au dessin et Carl Story à l'ancrage. Ça date de mai 1999. Et c'est un numéro assez marquant, si on peut dire, puisque c'est un petit tournant dans la carrière de Dick Grayson. C'est le moment où il décide de rejoindre l'académie de police et qu'il devient donc officier de police à Bloodhaven.
Mais à quoi ça lui sert? Il est déjà super-héros la nuit. Donc il veut...
Il combat le crime et la corruption autant dans Bloodhaven que au sein même de la force de police. C'est quand même un tournant majeur dans la carrière du personnage, puisque il fait même au-delà de ce que faisait son mentor, Bruce Wayne, puisque lui, il se range carrément du côté des forces de l'ordre, même la journée. C'est-à-dire qu'il est vraiment super-héros constamment, quoi. Autant en tant que flic, donc héros à petite échelle, que Nightwing, héros à plus grande échelle.
D'accord, donc il fait un peu comme toi, quoi. En fait, ses journées, c'est un peu les tiennes. C'est-à-dire qu'il ne dort plus. Mais par contre...
Très peu, disons.
Puis il est autant super-héros que toi, puisque tout le monde le sait, tu es un super-héros à New York.
Ah oui, oui, avec ma immense réputation qui me précède.
Exactement, exactement. T'as même ton bad signal, ton Steve signal, je sais pas comment je sais pas comment ça s'appelle.
Non, je garde ça.
C'est peut-être en rapport avec le briquet aussi.
C'est la part de mystère.
Ouais, mais je pense que c'est un rapport avec le briquet au fait. Quand t'entends le bruit du briquet, tu sais quand t'appelles. Bon. Alors, moi, j'ai pris le Amazing Spider-Man 31. Voilà, donc, surprise du Spider-Man. Mais pourquoi le 31? Parce que, quand même, dans cet épisode, première apparition de Gwen Stacy, première apparition de Harry Osborn, première fois que Peter se retrouve à l'université, donc gros bouleversement dans sa vie, et puis aussi, première partie d'un arc en 3 qui restera dans les annales, puisque c'est la première partie de l'arc où, au fait, dans la troisième partie, tu as cette scène où Spider-Man soulève des décombres qui sera réutilisé maintes et maintes fois par divers dessinateurs au fil du temps. Il est face à Doc Ock. C'est l'un de ses affrontements d'ailleurs les plus, dantesques avec le Docteur Octopus, puisque la vie de Tante May est en jeu, comme souvent. Voilà. Donc, on ne déroge pas à la règle, mais en tout cas, ça restera un classique de Stan Lee et Steve Ditko. Voilà, voilà. Est-il besoin d'en rajouter plus pour... étayer mon choix, je pense que c'est très clair. Voilà.
Ouais, pas mal de premières fois, en tout cas, dans cet épisode.
Ouais.
Bien. Et on va continuer sur les news, comme d'habitude.
Ouais, alors, donc, niveau news, cette semaine, c'est assez calme, c'est les vacances, donc tout le monde se repose. Néanmoins, il y a eu une conférence à propos du prochain gros événement Marvel, en 2011. Ça s'appellera Fear Itself. Alors, Fear Itself, c'est quoi? C'est un petit peu tout ce qu'on voyait, tous ces teasers, tout le monde a peur, les super-héros ont peur. Et justement, en fait, ils vont affronter le dieu de la peur. Donc, on a vu une image. Personnellement, il me fait penser au père Foura. Voilà, avec des serpents à la place de la barbe. Bon, il fait pas très peur comme ça. Il fait plutôt marrer. Au scénario, on retrouvera pour cet événement en 7 parties, cette mini-série, Matt Fraction. Donc, surprise déjà, puisque pas de Bendis. Pour un gros événement Marvel, ça change un peu. Matt Fraction au scénario, Stuart Timonen se chargera des dessins.
Donc c'était ça le fameux gros projet pour lequel il a quitté New Avengers.
Oui, en plus, tu me fais bien de me le dire parce que je m'étais même pas fait cette réflexion encore. Bravo. Oui, mais non, c'est vrai. Effectivement, voilà.
On comprend qu'il ait quitté New Avengers, quoi. C'est quand même une aura... plus importante que de faire un event qui est censé bouleverser une fois de plus.
Exactement, puisque Quapel, etc. sont quand même rentrés dans le panthéon des dessinateurs avec les événements qu'ils ont dessinés. Lenny Francisciu avec Secret Invasion, Steve McNiven avec Civil War. Donc effectivement, pour Stuart Timonen, c'est une grande occasion. Il y aura un prologue à tout ça, avec Captain America et les Invaders. Donc ça prendra place durant la Seconde Guerre mondiale. Ce sera par Ed Brubaker et Scott Eaton au dessin.
Ah,
Ça sortira.
je savais pas que c'était Cap et les Invaders, tu vois.
Voilà.
Ah, déjà, ça commence à moins me plaire.
Alors, c'était un petit peu l'idée que j'avais eue. Je me suis dit, peut-être qu'ils ont déjà affronté ces espèces de tripodes à l'époque. Parce que apparemment, enfin, je pense que l'histoire des tripodes, ça va être lié à cet événement, d'une manière ou d'une autre. Donc peut-être que ça va faire appel à un événement qui s'est passé justement dans le passé de l'univers Marvel, qui aura des répercussions.
Une fois encore, on nous rajoute un truc qui s'est passé avant, qu'on ne connaissait pas.
Oui.
Un gros gros truc pour lequel on base une nouvelle histoire. Et c'est vraiment pour le besoin d'une histoire qu'on fait ça à toute vitesse. Ça me gêne un peu, quoi.
Ouais. Alors tu fais bien de le dire, puisque justement, il a été dit dans cette conférence qu'il s'agissait d'un secret gardé depuis des années, qui va ressurgir et qui aura des répercussions sur l'univers Marvel tout entier. Donc c'est exactement ça, hein. Malheureusement. Alors.
Donc il y a deux choses qui me gênent, moi. Donc il y a cette partie sur qui vient du passé, une fois encore. L'autre chose, c'est quand même que dans l'univers Marvel, moi, quand on me dit Dieu de la peur, première chose à laquelle je pense, c'est Phobos. Et apparemment, ce n'est pas lui. Donc là, je comprends pas trop ce qui se passe.
Alors Phobos sera de la partie, c'est dit aussi. Alors quel sera son rôle? Je ne sais pas. En tout cas,
parce que c'est quand même un petit peu lui, le Dieu de la peur.
Donc, est-ce que c'est son père, peut-être? Peut-être que le père pourra...
Non, son père, c'est Ares.
Oui, à son grand-père, pardon, son grand-père. Donc le père d'Ares.
Je sais pas.
Ouais. C'est un peu tiré par les cheveux, tiré par la barbe. Bref.
Non, mais c'est, voilà, ça. C'est pas que, je pars pas, avec un mauvais a priori, hein, parce que j'attends de voir ce que ça va donner. D'une part, parce que c'est Matt Fraction au scénario. Donc déjà, ce gros changement, plutôt que Bendis, fait vraiment du bien. Maintenant, il y a quand même des petits détails qui risquent d'être assez handicapants, je trouve, dès le départ. J'attends de voir. Avril, c'est dans pas si longtemps que ça, donc on devrait avoir des réponses rapidement. Mais voilà, je suis assez mitigé.
Alors, attention, parce qu'il y a aussi d'autres choses qui vont te déplaire. On nous annonce plein de tie-in. Donc,
comme tous les événements Marvel, hein.
Ouais, il y en a eu moins, on va dire. Bon, il était plus court en même temps, donc c'est un peu normal. On nous dit que de nombreux indices ont annoncé cet événement. Alors bon, à part la carte temporelle dans Avengers, je vois pas trop.
Bah, ça prendra peut-être son sens une fois qu'on aura lu les premières parties. On verra plus facilement les indices.
On verra.
Parce que chercher des indices quand on sait pas ce qu'on cherche, c'est difficile.
Effectivement. Il y en a beaucoup qui le font, mais bon.
Le truc, c'est que quand on nous annonce pas que c'est un indice pour ce qui va arriver ensuite, on s'en rend pas forcément compte.
Ouais. Et sinon, dernière précision là-dessus, le premier numéro fera 45 pages et il sera tout de même à $3.99.
Ce qui reste raisonnable pour un numéro de 45 pages.
Ouais. Après, faut voir, hein, s'il nous colle un bonus, reprint Captain America et les Invaders datant de la Seconde Guerre. Bon.
Ouais.
Faut voir. Voilà, pour ce qui concerne
Il y aura aussi quand même, dans les tie-in, il y aura quand même un équivalent Frontline.
Oui, exactement.
Ou Embedded pour Siege, mais voilà. Donc, il continue de garder cette ligne directrice-là, et on verra, quoi. On verra si la série est plutôt de l'acabit de celle de Siege, ou plutôt de l'acabit de celle de Secret Invasion, c'est-à-dire pas bien. Je ne sais pas qui est de scénario, par contre.
Moi non plus, là tu me poses une colle, par contre. Comme j'avais pas pris en note cette partie-là...
C'est pas grave.
Bah, on verra. Surprise. Alors donc, toujours chez Marvel, on nous a annoncé cette semaine la sortie pour le printemps de Zombie Christmas Carol, donc une version zombifiée de l'œuvre de Charles Dickens par Jim McCann.
D'accord, et on sort ça en avril.
Bah, oui, c'est assez bizarre, oui. Voilà. Bon. À se faire offrir pour Noël prochain. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire.
Bon, c'est Jim McCann, donc ce sera peut-être pas mal. Maintenant, bon, voilà. À la rigueur, alors, c'était peut-être plus intelligent de faire un truc Apple's Fool, quoi. Donc Poisson d'avril.
Oui.
Pour coller avec le mois. Je sais pas, c'est bizarre.
Bon. Enfin, en même temps, ça peut sortir en mai, ou je ne sais pas, un printemps. Bon. Faut voir. Toujours est-il que c'est tout pour Marvel. On va passer chez DC. Avec une toute petite news aussi de notre ami Rich Johnson, qui cette semaine nous communique que peut-être Marshall Law, alors Marshall Law c'est pas Marshmallow, hein, c'est pas le petit bonhomme en mousse. Marshall Law, qui était alors en fait originalement publié par Marvel sous le label Epic, donc le créateur owned Epic, qui ensuite est passé aux mains d'Apocalypse, de Dark Horse, de Cool Beans et d'Image Comics. Donc tu vois, notre ami Marshall Law a voyagé. Et depuis que Paul Levitz n'est plus là, c'est que Paul Levitz n'aime pas les trucs très violents et Marshall Law est assez violent, assez décalé. On le décrit comme étant pire que The Boys. Donc tu te rappelles que Paul Levitz avait envoyé The Boys balader chez Dynamite. Et bien maintenant que Paul Levitz n'est plus là, et bien du coup, Marshall Law aurait ses chances d'arriver chez DC prochainement. Alors bon, c'est à confirmer, hein, effectivement. Mais voilà.
Bah,
Peut-être qu'on
à
va
voir.
pouvoir lire du Marshall Law. C'est vraiment dans, comment dire, dans le trip. Ça me fait penser à Judge Dredd, quoi, tu vois, dans le style. C'est vraiment du 2000 AD, quoi.
Moi,
Dans le...
je sais que j'en ai jamais lu, j'en ai déjà vu des bouquins passer comme ça, mais j'en ai pas et j'en ai jamais lu. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut.
Ça a l'air complètement déjanté. C'est vrai que ça avait vraiment sa place dans le catalogue Image, je trouve. Ça me fait penser à un certain Butcher Baker. On t'entendra parler plus tard. Bon, bah, on va passer à autre
Au
chose.
review, ouais, on va passer au review. Alors, cette semaine, pas de double review. On va faire simplement deux reviews solo. En même temps, il y a des sorties, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, c'est les vacances, on n'arrive pas forcément, avec Noël, etc., on n'arrive pas forcément à se procurer tout ce qu'on a envie, puisque bah, la poste est un petit peu débordée. Donc, on n'a pas tout reçu.
Il neige beaucoup chez moi.
Ouais, non, pas chez moi.
Ah bon,
Mais
moi c'est terrible, c'est un peu l'apocalypse depuis quelques jours.
ça pèle sa race, par contre. Donc,
Oui aussi, ouais. Ça...
pour commencer les reviews solo cette semaine, Batman Inc. numéro 2, scénario de Grant Morrison, dessin de Yannick Paquette, ancrage de Michel Lacombe. Bon, le premier numéro m'avait plutôt pas mal surpris en bien. Donc je me suis dit, bah forcément, je vais voir le numéro 2. Et ben là, c'est la déception. Je vais attaquer tout de suite. J'ai été super déçu par ce numéro. Alors, il y a des. Bon, super déçu parce que je m'attendais à autre chose. Tout simplement. C'est pas que le numéro est mauvais en lui-même. Le numéro est pas mal, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a ce qu'il faut. Bon, voilà, mes principales complaintes sont pas là. Il y a des bonnes idées quand même, notamment le fait qu'on apprend que ce fameux Mister Unknown, donc le Batman japonais, n'allait pas sur le terrain du tout. Celui qui est son apprenti, en fait, Batman n'était pas au courant qu'il avait un apprenti. Un équivalent de Robin, et on pensait que c'était d'ailleurs un équivalent de Robin, et pas du tout. En fait, le Mister Unknown était assez vieux, il avait 57 ans, je crois, et donc il n'allait plus du tout sur le terrain, mais ce fameux personnage qui s'appelle Giro, hein, je crois, je veux pas dire de bêtises, bon, je vais l'appeler Giro, tant pis si c'est pas ça, désolé, je crois que c'est Giro, j'ai pas noté son nom, je suis désolé.
Ouais, comme Girophare.
Oula.
Non mais je sais pas, hein. C'est une
Oui.
supposition de ma part en plus.
C'est une vanne.
Non non non, ce n'est pas une
Non,
vanne.
c'est Jiro puisque c'est un japonais. Jiro.
Ah d'accord, mais oui, mais bien sûr, ça se passe au Japon. Suis-je bête? Mais oui.
Et moi qui pensais que tu faisais exprès en
Non 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 non, même pas, tu vois, carrément. Non mais d'habitude je certifie mes vannes, tu vois,
fait.
je revendique que c'est une vanne, mais là non, pas du tout en plus. Bon.
Ben, c'était une vanne involontaire, c'est pas grave. Ça reste drôle quand même. Peut-être
Oui.
même plus drôle parce qu'elle est involontaire. Bref, donc Giro était en fait le Batman qui allait sur le terrain, alors que Mister Unknown restait lui dans sa caverne, enfin dans sa Batcave, sa Unknown Cave, j'en sais rien comment il l'appelait, son repère secret, afin de faire le travail de détective. Donc il y a un côté assez Batman Beyond là-dedans,
Ouais.
je trouve. Voilà, donc voilà des petites idées sympathiques. On revoit aussi un des membres de la Super Young Team, les super-héros japonais, qui passent par là et tout. Bon, ça encore. Ça va. Là, ce qui m'a vraiment fait bizarre, c'est le comportement de Batman face à ce fameux Lord Deathman.
Qui
Et
pour
non.
moi est vraiment le clone de Black Mask.
Alors, bah, Morrison nous dit qu'on l'a déjà, enfin, Batman l'a déjà affronté. J'ai pas été faire de recherche, j'ai pas eu vraiment le temps, donc je sais pas du tout dans quel épisode c'était. Bah, si vous avez les infos, n'hésitez pas à nous laisser un com sur le site pour nous dire dans quel numéro c'était.
Ouais, parce
Parce
que
que j'ai pas eu
hormis
le temps
la
de faire
couleur
de recherche.
de son crâne, c'est exactement le clone de Black Mask, quoi.
Ben, en fait, apparemment, il s'appelait Lord Death avant, ou Death tout court, ou Deathman, je ne sais plus. Ben, bon, bref, il a ajouté une particule quelconque, et du coup, ça devient Lord Deathman, mais c'est un personnage qui est déjà passé dans les pages de Batman.
D'accord.
En connaissant Grant Morrison, ça va être un personnage qui a dû apparaître une ou deux fois maximum.
Ou bien
Voilà,
qui
c'est
est
tout.
peut-être apparu dans la JLA du temps où il officiait dessus, surtout.
Non, je pense pas, parce que vu l'image qu'on en voit, c'est vraiment avec Dick Grayson en tant que Robin. qui s'était fait défoncer, enfin sur la seule image que l'on voit qui s'était fait défoncer, et Batman qui l'affrontait tout seul.
D'accord.
Et donc ce fameux Lord Deathman a la capacité de tromper la mort, notamment avec des techniques de yoga où il ralentit énormément sa respiration jusqu'à faire croire qu'il est mort, et c'est comme ça qu'il arrive à s'échapper.
Oui, d'accord, ce qui peut être utile dans certains cas, mais par exemple si on lui envoie un missile dessus, il ne peut pas tromper la mort, quoi.
Ouais, mais là apparemment il a d'autres secrets qui lui permettent de tromper la mort. Et donc il est presque intuable, quoi, limite invincible.
D'accord.
Et donc Batman utilise une solution particulière afin de le punir et de l'empêcher de revenir.
Ouais.
Et je trouve ça mais totalement out of character. C'est mais je vous dis pas, enfin allez voir si vous voulez. C'est vraiment, ça m'a paru vraiment bizarre et absolument pas dans le comportement de Bruce Wayne. Alors est-ce que Grant Morrison veut nous faire passer un message que Bruce Wayne a vraiment changé depuis son retour à travers le temps, que ses méthodes sont devenues plus radicales, puisque c'est quand même le cas?
Bah oui, enfin il veut tuer là. Il veut le tuer concrètement, quoi, c'est ça. Hein.
Grosso modo, enfin non, il ne peut pas le tuer, donc mais il lui trouve un châtiment pire que la mort.
D'accord.
Voilà. Mm-hmm. Donc bon, voilà. Puis bon, on apprend aussi pourquoi Catwoman a suivi Batman dans ce périple au Japon, et ce n'était pas que pour ses beaux yeux.
Elle voulait peut-être piquer quelque chose, comme la cambrioleuse qu'elle est.
La réponse dans le comic. Alors, le comic en lui-même est pas mauvais, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais quand j'avais lu le premier épisode. Quant à savoir ce qu'il advient de ce Robin Batman japonais, eh ben, je vous laisse découvrir son sort. Reviendra-t-il le fameux Batman Incorporated ou pas? La réponse dans le comic.
Moi je m'en fous, voilà. Non, en fait voilà, j'avais pas aimé le premier parce que pour moi déjà Batman sans Gotham c'est plus Batman, et là là ça ressemble de moins en moins à du Batman, bref, enfin, de toute façon.
Alors je sais pas où Morrison va avec ça. Apparemment il a un plan, il va vers quelque chose. Pour le moment c'est pas clair, mais bon, on verra bien. En tout cas j'ai été vraiment un peu plus déçu par ce numéro là et du coup ce sera pour moi qu'un check-it.
Ok. Eh bien, on continue au rayon des déceptions, et on continue chez DC avec le...
Ah, donc c'est les déceptions.
Ah, oh, oh. Allez, je leur revendique cette blague, hein. C'est moi qui l'ai dit en premier. Deception, voilà. Donc, dans la gamme Deception, nous avons le Wonder Woman 605, et on pourrait faire cette rubrique. Enfin bref.
C'est quoi, les Marvel Deception?
Oui. Ah bah, Marvel, faudra trouver un autre terme pour Marvel.
Les Unmarvelous.
Oh mais remarque, Marvel c'est toujours décevant, donc de toute façon il n'y a pas besoin de chercher de thème. Bref, on en reparle tout à l'heure.
Oh là là.
Donc, Wonder Woman 605, au scénario nous avons à la fois Straczynski, mais aussi Phil Lester, qui sera le nouveau scénariste de Wonder Woman à terme. Mm-hmm. Au dessin, Don Kramer, Eduardo Panzica et Daniel DR, HDR. Voilà. Je te dis même pas à l'ancrage, parce qu'il y en a 4.
D'accord.
Donc, zappons. Comme tu vois, un numéro, comment dire, une espèce de...
Partagé.
Voilà.
Très très partagé.
Joyeuse partouze d'auteur, on va dire.
Oh.
Très très, sans arrière-pensée, bien entendu.
C'est la fin de l'année, tu te lâches, toi.
Oui, voilà. C'est les fêtes. Donc,
j'ose même pas imaginer ce que t'as prévu pour le 31.
Non, non.
Avec ce genre de discours, monsieur.
Voilà. Donc, bah écoute, alors, on découvre un petit peu la vie, au fait, de Diana, de Wonder Woman, dans cette nouvelle dimension, puisque il semblerait qu'elle soit depuis quelques mois dans une autre dimension. Mmh. Et au fait, j'étais complètement largué. Alors je sais pas si c'est le fait que on passe de torche entre Straczynski et Phil Lester, il y a un passage de torche, il y a un changement d'auteur. Je sais pas si c'est à cause de ça que j'ai été largué, mais alors là je comprenais pas du tout où ça allait. C'est-à-dire que le premier arc, je comprenais bien. Il y avait un ennemi mystère qu'elle affrontait, etc. Bon, ok, d'accord. Et là, elle se retrouve en première partie à parler à un chat. Alors apparemment, elle a d'anciens alliés qui refont des apparitions que je ne connais pas parce que j'ai lu très peu de Wonder Woman. Donc ça, bon, ok, d'accord. Mais je vois pas du tout où ça va. Alors, il y a aussi l'apparition de nouvelles ennemies qui ont un charisme d'huître, quoi, franchement.
Et qui j'allais dire de moule, mais l'huître, ouais. C'est plus la saison, après tout, pourquoi pas.
Voilà, oui, puis... Oui, voilà, on va dire que ce sera mieux. les Morrigan, donc elles sont deux, elles font apparaître une espèce de minotaure et une espèce de centaure, je crois, qu'elles lancent à la poursuite de Wonder Woman. Et c'est censé, ces deux personnes, être les boss, entre guillemets, du mystérieux ennemi que Wonder Woman affrontait dans le précédent arc. Le seul truc, c'est qu'il avait carrément plus de charisme, il avait carrément l'air plus, comment dire, important que ces deux personnages. Enfin voilà, l'histoire n'est pas transcendante du tout, elle n'est pas super intéressante, il y a juste quelques passages sympas, comme un moment où en fait Wonder Woman rencontre le fils de l'une de ses amies, qui lui a fait un dessin. Alors bon, le dessin en plus est assez drôle, c'est vraiment un dessin d'enfant, quoi. Et en fait, il a dessiné Wonder Woman, mais dans son ancien costume. Et d'un seul coup, ça lui fait un espèce de choc, elle a mal à la tête, enfin tu vois, on sent que dès qu'elle se rappelle plus ou moins de son ancienne vie, ça lui fait un effet, quoi. Elle ressent que quelque chose cloche et que normalement ça devrait pas être tel que les choses se déroulent actuellement. Et bon, alors, voilà, ça c'est assez intriguant, mais sinon le reste, les ennemis sont vraiment peu charismatiques, le cliffhanger est assez convenu. Bon, bah voilà, un changement de scénariste vraiment, enfin, qui signe à mon avis pour moi le glas de la série, quoi, encore une fois. C'est-à-dire que pendant 3-4 mois, c'est remonté, parce qu'il y avait le nom de Straczynski sur la couverture, et puis maintenant, Wonder Woman, à mon avis, va repasser au fin fond du classement, du bas de classement chez DC, quoi, ce qui est bien dommage. Voilà. Donc pour moi, c'est juste un check-it, au moins pour se faire une idée de vraiment de d'où va le nouveau scénariste, de ce que ça peut donner. Peut-être que ça interpellera certains lecteurs, mais enfin en tout cas moi ça m'a pas du tout captivé, quoi, outre mesure. Voilà.
Ben ouais, enfin moi ce que je me demande c'est dans combien de temps reviendra-t-on à ça du coup classique, c'est-à-dire Wonder Woman avec son costume classique, dans la réalité normale, et qu'on oubliera vite cette passage de Straczynski comme on a essayé très vite d'oublier le chapter 1 de John Byrne sur Spider-Man.
Ben, faut voir si ça tombe, Philester a vraiment des plans passionnants, mais là en tout cas.
Et comme il y a toujours Straczynski qui chapeaute l'ensemble, je sais pas si Philester pourra vraiment faire ce qu'il en dit.
Bon, en tout cas, à mon avis, ça va pas durer longtemps, comme tu dis, hein, je partage ton avis là-dessus. Bien, bah voilà, donc bon bah juste un check-it. Mais franchement, le prochain, si ça continue comme ça, ce sera un pass, quoi.
Ok. Je reviens vite fait sur ce fameux changement de scénariste, parce que ça m'a fait penser à une news dont on a oublié de parler tout à l'heure. Puisqu'on annonçait que Matt Fraction allait sur Fear Itself, le nouvel event, il quitte les Uncanny X-Men
Oui.
et laisse Kieron Gillen au scénario seul de Uncanny X-Men. Alors depuis quelques mois, Kieron Gillen est en tandem avec Matt Fraction, où il fait des backups, je crois.
Ouais.
Entre autres, et bah, je sais pas si tu te rappelles, au moment où on avait annoncé la news, j'avais dit, ça me bizarre, Kieron Gillen qui rejoint Uncanny X-Men avec Fraction, à terme je sens que Fraction va partir et
Ouais.
va laisser la place à Gillen. Bon bah voilà, prophétie réalisée.
Oui, bah de toute façon, c'est dans la droite lignée de ce qui s'est fait sur le titre, puisque rappelle-toi, je t'avais dit Brubaker, Fraction, à terme, c'était plus que Fraction, donc là, pareil, peut-être que dans
Bon,
quelques mois, Gillen sera en tandem avec quelqu'un et il lui passera le
à
flambeau.
voir si Fraction reviendra après Fear Itself. En tout cas, pour le moment, il quitte Uncanny X-Men. Alors, je sais pas à partir de quel numéro Gillen sera tout seul, mais c'est d'ici prochainement, quoi.
Et pour le moment, rappelons qu'il est sur Thor. Et rappelons qu'il est toujours sur Invincible Iron Man, donc effectivement, ça faisait beaucoup quand même.
Exactement, voilà. C'est pour ça qu'il doit quitter Uncanny X-Men. Et puis, c'est vrai que ça fait quand même un bon moment qu'il est sur le titre, mine de rien. Puisqu'il a le titre en solo, je crois, depuis le 4, juste après Messiah Complex. Donc 495, quelque chose comme ça, nous sommes au 531. Ça fait quand même un bon moment qu'il est sur le titre,
Ouais,
mine de rien.
et je veux pas paraître méchant, mais en 30 numéros, un peu plus de 30 numéros, il y en a peut-être une dizaine que je retiendrai, quoi. Donc bon,
On y revient tout à
on y
l'heure,
revient tout
de
à
toute
l'heure.
façon.
Allez.
Allez, deuxième review solo et dernier review solo pour ma part de cette semaine. Green Lantern, Larfleeze Christmas Special. C'est un one-shot, donc sorti à l'occasion de Noël, celui-ci, hein, puisque c'est un Xmas Special, hein, pas comme chez Marvel, qui fête Noël avec des mois de retard.
Oui.
C'est...
Ça arrive souvent d'ailleurs, hein. Ça arrive
Voilà.
souvent que t'aies en mars ou en avril des épisodes spécial Noël.
Ouais, comme quoi. Hein. Donc, c'est écrit par Geoff Jones, et au dessin et à l'ancrage, on a Brett Booth. Donc, c'est quand même quelqu'un que j'avais pas vu depuis très longtemps.
Oui, c'est vrai que je vous.
Voilà.
Bon, ça peut paraître désagréable, mais je pensais que notre cher Brett Booth avait disparu. Non, non, bah, il est toujours parmi nous, tant mieux.
Mais peut-être faisait-il des trucs chez Wildstorm, sûrement d'ailleurs, et que vu que Wildstorm s'arrête, eh ben,
D'accord.
peut-être. Il faut bien recaser tous ces dessinateurs
Ouais, tout à fait.
qui
Tout à fait.
étaient sur des séries Wildstorm et qui n'ont plus de travail pour le moment.
Donc graphiquement, c'est beau, c'est du bon.
C'est plutôt pas mal, ouais. Moi j'aime bien. Ça s'y est pas mal à l'univers de Green Lantern. Donc là, le héros principal, c'est bien évidemment Larfleeze. Larfleeze qui se retrouve le 24 décembre au soir, en attendant le fameux Père Noël, lui laisse des petits cookies et du lait, hein, comme sa tradition. Dans le dépotoir dans lequel il vit,
Non mais
quand je dis
attends,
dépotoir,
il est sur Terre, l'Arflize?
oui, tous les, enfin,
Ah oui.
Atrocitus, Larfleeze, Sinestro, ils étaient tous sur Terre depuis la fin de Blackest Night.
Ah d'accord. Gros spoil dans ma face, d'accord.
Et il fricote avec Hal Jordan.
Oui, d'accord.
Enfin, c'est plutôt Hal Jordan qui fricote avec eux, mais enfin,
Oui, d'accord.
c'est, voilà. Hal Jordan fricote avec les autres représentants des autres couleurs.
Donc pour lui, c'est nouveau quand même, cette tradition.
Oui, voilà, c'est nouveau, mais il a entendu parler de Santa Claus qui exauce les vœux, qui apporte ce que les gens ont envie, ce dont les gens ont envie plutôt, comme cadeau. Et donc, il a fait une liste monstrueuse qui est mais gigantesque dans le dessin, et c'est justement très très bien joué, quoi. Parce que, vu que c'est l'avarice, il veut énormément de choses.
Ah oui, d'accord. Oui, c'est très très bien vu, effectivement.
Voilà. Et donc, bah, est-ce que le Père Noël va lui apporter quelque chose? Bah, il se réveille le 25, hein, c'est dès le début. Et bien sûr, il s'aperçoit que le Père Noël ne lui a rien apporté.
Parce que le Père Noël est une ordure.
Ou le Père Noël n'existe pas, peut-être. Tout simplement. Bref, du coup, il est pas content et il commence à vouloir aller chercher le Père Noël qui l'a oublié. Et donc, il débarque pendant une parade de Noël où il voit plein de Père Noël qui se met à poursuivre des Père Noël dans les centres commerciaux, enfin.
Je tenais à préciser quand même pour le bien de ma blague que c'est parce que tu m'avais dit qu'il vivait dans un dépotoir. Voilà.
Oui,
Fin de la parenthèse.
puisqu'il vit dans un dépotoir, c'est là où il a élu domicile en fait. Et donc justement pour l'occasion, il s'était construit une petite maison, il avait fait une cheminée, il avait fait un sapin. D'ailleurs dans son sapin, c'est excellent puisque il a trouvé plein de trucs dans cette espèce d'immense dépotoir. Et notamment dans son sapin, on voit accrocher des statuettes cassées, enfin des figurines cassées de Flash par exemple, d'autres personnages décès, ce genre de choses. C'est assez marrant, quoi. Son arbre de Noël est un est une immondice en fait,
Un
mais
pot pourri, on
c'est
va
bien.
dire, de diverses
Voilà,
choses.
oh, exactement. Oh, c'est très bien, c'est très joli, très joli. Donc voilà, et à force de chercher le Père Noël, il apprend par un petit gamin que Père Noël habite au pôle Nord et il y va. Donc on a quand même l'épisode qui est ponctué de petits délires assez enfantins, mais qui reste assez drôle dans l'esprit du numéro, genre quand il va au pôle Nord, on a une splash page avec un gros labyrinthe. À toi de faire le chemin de Larfleeze avec plusieurs petites séquences quand tu te trompes de chemin, quoi. On
D'accord.
voit Larfleeze poursuivi par un grizzly, enfin ce genre de choses. C'est assez drôle.
Ok.
Et du coup, Hal Jordan intervient, puisque ne trouvant pas le Père Noël, il commence à vouloir saccager et à faire fondre le pôle Nord.
Ouais.
Ce qui n'arrange pas les choses, vu qu'il y a déjà la fonte des glaces. Hein.
Mais attends, mais ils sont un peu concons, ces Green Lanterns.
Et donc, bah oui, voilà, ça a attiré Hal Jordan qui vient et lui explique que le Père Noël n'existe pas. Et bien sûr, Larfleeze ne veut pas le croire. Il dit, voilà, j'ai accepté de vivre sur Terre, et j'ai accepté tes règles, et je me suis tenu, j'ai été gentil. Alors pourquoi il n'est pas venu m'apporter des cadeaux? Bref, voilà. Et puis Hal Jordan le ramène chez lui, examine sa liste et lui dit, écoute, voilà, je vais t'expliquer ce que c'est que l'esprit de Noël, c'est plutôt donner aux gens et leur faire plaisir plutôt que recevoir.
Ah oui, alors lui, pour lui, ça va pas aller.
Exactement. Et il lui montre sa liste et il regarde tout ce qu'il y a sur la liste, notamment il y a des choses assez folles comme un hoverboard. En disant, mais t'as une bague, tu peux voler, pourquoi tu vas en overboard? Bah parce que je pourrais voler et aller sur l'eau. Enfin, c'est complètement crétin, mais bon, c'est Larfleeze, quoi. Et l'épisode est vraiment drôle,
Il peut pas
c'est vraiment
créer
sympa.
avec sa bague, justement,
Bah,
le hoverboard,
bien sûr que si,
en
c'est
plus.
d'où la réflexion de Hal Jordan, qui finit par lui dire, bah écoute, regarde sur ta liste et regarde s'il y a vraiment quelque chose dont tu as besoin. Et voilà. Et c'est ça, c'est avec ça qu'il faut que tu espères, avec cette chose dont tu as besoin, plutôt que tout et n'importe quoi. Et donc ça finit sur une petite séquence assez émotionnelle où Larfleeze trouve quelque chose dont il a vraiment envie et vraiment besoin sur sa liste. Et je vous révèle pas ce que c'est, je vous laisse le découvrir vous-même.
C'est une meuf. Moi aussi, c'est une meuf.
Non, c'est très sympathique. Ça fait presque verser la petite larme à la fin, c'est bien écrit. Donc
Bah, moi,
voilà,
ça m'a
c'est
plutôt donné
rassurant.
envie de le checker, ce numéro, en
C'est
fait.
franchement très sympa. On a aussi une petite histoire de 2 pages par Art Balthazar, celui qui fait les Tiny Titans à la fin, où je crois que c'est Glomulus, hein, qui s'appelle l'espèce de petit glouton qui est toujours avec l'Arflies
Steve, il
en
s'appelle.
construction. Et qui va sur les différentes planètes rencontrer les différents membres des corps pour avoir des cadeaux de Noël à apporter à la Flis. Donc voilà, c'est assez drôle.
Ben, moi, je suis pour un corps des Pères Noël, au fait. Jeff Jones n'a pas eu cette idée, comment se fait-ce? Voilà, un corps des Pères Noël, tout simplement. Tous gros barbus avec
Et
un
c'est
bien rouge.
peut-être que les Pères Noël sont les représentants de cette fameuse White Lantern, sait-on jamais.
Les White, ouais, ce serait plutôt les White and Red Lantern, ou les Winter Lantern, je sais pas comment le dire. Ouais.
Ah, peut-être. Donc voilà, donc un numéro franchement sympathique, qui n'est pas un must-read pour comprendre la suite, mais c'est vraiment sympa. Donc je dirais que c'est un bail parce que c'est sympa, mais en même temps, comme c'est pas essentiel, ça sera qu'un check-it. Mais si vous voulez passer un bon petit moment, c'est vraiment sympa, donc allez-y quoi. Si vous le trouvez, allez-y. Si vous aimez bien sûr l'univers de Green Lantern.
Très bien. Bah, comment ne peut-on pas l'aimer si on l'a lu, franchement, enfin si on en lit, je veux dire, puisque c'est vraiment très bon.
Ah, les avis sont partagés. Certains se demandent où ça va et n'apprécient pas forcément les changements dans le titre actuellement. Mais en tout cas, je dois dire que ça me convainc toujours autant et j'ai rattrapé mon retard sur les 2 autres séries Green Lantern. J'avais quelques mois de retard et toutes sont très bonnes.
D'accord.
Donc
Bien. Bien, de toute façon, on y reparle. On en reparle peut-être tout à l'heure. Dernière review solo de ma part, Superior numéro 3 de Mark Millar et Lenny Francis Yu. Donc on reste dans le féerique, la magie de Noël et les vœux exaucés. Donc,
cette saison, c'est très bien.
oui voilà. Donc notre ami Simon Pooney, puisque c'est son nom, le héros de Superior, rappelez-vous, avait vu son vœu exaucé, puisqu'il était handicapé, il avait beaucoup de problèmes, et
Il
dans ce
avait une sclérose en plaques.
une sclérose en plaques, voilà. Tout à fait. Et un singe, une sorte de clone de Gollum, était venu l'exaucer et il s'était transformé en supérieur, le super-héros bah, bien connu, puisqu'en plus c'est un personnage de cinéma dans le monde où il vit. Donc bon. Voilà. Alors, le second numéro dont on n'a pas parlé, je peux le résumer très vite, juste 2 secondes, c'était juste. Bah, en fait, il testait ses pouvoirs avec son grand ami. Et là, au fait, on l'avait quitté sur une navette spatiale qui s'écrase sur Terre, et donc Superior vient à la rescousse et bah, parvient à la poser tranquillement au-dessus de Central Park, ce qui attire, tu t'en doutes, pas mal l'attention des gens, hein, évidemment.
J'imagine, ouais.
Voilà. Donc, ça devient un super-héros super médiatisé. Tout le monde se dit, mais comment se fait-il que ce personnage de science-fiction existe réellement, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, durant quasiment tout ce numéro, là on est vraiment sur une espèce de série d'exploits qu'il réalise. Donc il empêche l'explosion d'une centrale nucléaire, il empêche le déraillement d'un train, etc., etc., etc. Donc plein de scènes super-héroïques. Donc c'est vraiment le cas de le dire, on est vraiment dans le super-héros, le Superman, quoi, vraiment pur et dur. C'est du super-héroïsme à plein tube. Donc c'est plutôt sympathique, en fait, ce numéro. Mais il y a juste un truc qui me chiffonne un peu, c'est que c'est assez convenu, au fait. Mark Millar quand même tire sur des ficelles déjà bien éculées, la fin notamment. Je vais pas révéler exactement ce que c'est, mais je comparais le singe, ce fameux singe qui lui a donné ses pouvoirs, à Gollum, et bah j'ai envie de dire que c'est vraiment ça, quoi. En fait, voilà. Donc bon, ceux qui ont vu Le Seigneur des Anneaux doivent se douter un petit peu de ce dont je parle. Et puis, que dire d'autre? Bah, je pense, hein, maintenant c'est une spéculation de ma part, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on voit aussi émerger un super vilain, que au fait le super vilain qu'on voyait dans le film tout au début de Superior devienne lui aussi réalité, quoi. Voilà.
C'est possible.
Et si c'est ça, bah, voilà, ce qui me dérange, c'est que c'est sympa à lire, mais c'est super convenu quand même. On peut vraiment deviner facilement ce qui va se passer. Donc pour le moment, c'est un peu dommage, quoi. D'autant que pour une fois que je lis un truc de Millar qui est pas complètement à jeter, quoi. Y avait Wolverine, Old Man Logan, qui était très bien. Bon, mais j'ai pas lu grand-chose qui m'ont passionné. Supérieur est plutôt pas mal, donc voilà. Donc pour moi, ce sera... Allez, un bail, on va être sympa, c'est Noël. Un bail... Un bail, parce que franchement, bon, il y a aussi les dessins de Lynn Francis Yu qui aident pas mal. Non, c'est vraiment, on passe vraiment un bon moment. Donc bon, allez-y, quoi. Mais j'ai un peu peur pour la suite. Surtout que Mark Millar a souvent l'habitude de se casser la gueule, hein, en seconde partie, quoi. C'est-à-dire que ça démarre plutôt bien, et après c'est une longue descente aux enfers. Donc voilà, lisez Supérieur. Pour le moment, c'est pas mal, mais je suis sceptique pour la suite quand même.
Bah, je réitère mon encouragement à ce que tu dises 1985.
Oui, aussi, il faudrait que je prenne
Ouais.
le temps, effectivement.
Je
Qui
pense que tu verras que c'est tout à fait dans la même veine.
Et tout à fait, oui, puisque c'est un petit peu l'irréel
Plus
qui arrive
sombre,
dans le monde
plus
réel.
sombre, beaucoup plus sombre, mais c'est dans la même veine.
Ben voilà, ça clôture nos reviews. Alors, que se passe-t-il maintenant?
Eh bien, un petit bonus, puisque c'est la fin de l'année, on va faire un petit bonus, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas fait de double review. On va faire un petit, mais très petit bilan de l'année VO, puisque vous verrez bientôt dans le Comics Weekly, on a fait un petit bilan de l'AVF. Dans le Comic City Chronicles, pardon, excusez-moi. On a fait un petit bilan de l'AVF. Donc, bah, puisque tout le monde ne lit pas de VO, afin d'éviter les spoils, on a réservé ça à l'émission VO. Donc en gros, les tops et les flops de l'année. On commence par les tops ou les flops?
Ben, on commence peut-être par maison, enfin par maison. Je veux dire, on va peut-être faire Marvel DC et puis l'indé, peut-être, vite fait. Donc Marvel, déjà, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était acheté finalement? J'ai envie de dire qu'est-ce qui
Alors,
était bon, ce sera plus simple.
qu'est-ce qui était bon? Alors vous verrez qu'on a absolument rien préparé. C'est terrible.
Non,
Enfin
mais
moi, en tout
alors.
cas, de mon côté, je n'ai absolument rien préparé.
Alors.
Donc je fais ça purement de mémoire. Qu'est-ce qui était bon? Shadowland était pas mal.
Ouais.
Vraiment pas mal du tout. Chaos War, un peu décevant, mais en même temps, je suis pas à jour, donc je sais pas si ça s'améliore. Thanos Impérative, moyen.
Ah ouais.
Dans les gros gros trucs, c'est pas mal, mais c'est moyen, quoi. On sent que... Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens moi, c'est que Dan Abnett et Andy Lanning commencent à tourner légèrement en rond sur les gros events cosmiques. Même si c'est toujours aussi bon, mais voilà, trop d'events cosmiques ont tué l'event,
Alors, j'ai
grave
envie de
quoi.
dire, dans les gros tops, justement, ces deux-là sur Heroes for Hire, gros coup de
Ouais.
cœur. Donc à voir ce que ça va donner la suite en 2011, mais en tout cas ça démarre très fort.
Supérieur, moi, me plaît.
Alors Supérieur, oui on peut le mettre, c'est vrai, dans les Marvel, quand même. Bonne surprise de Mark Millar cette année. Et puis la mauvaise surprise Nemesis.
Ouais, bah oui, parce qu'il faut aussi parler des flops, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est pour être complet, en tout cas, il faut parler des flops. Bah, le reboot Heroic Age, et notamment tout le reboot Avengers, qui pour moi est sympathique, mais aurait pu être beaucoup mieux.
Mais la grosse, à mon avis, la grosse erreur de Marvel, c'est d'avoir fait un reboot sans changer tellement les équipes créatives. Finalement, Bendis, ça va faire 10 ans qu'il est à force. J'exagère peut-être, mais ça va faire en tout cas 6 ans qu'il est sur les Avengers. Il n'a plus grand-chose à dire, à mon sens, et à faire sur ses personnages. On le laisse sur les Avengers. Pire que tout, on lui file 2 séries. Donc, autant moi j'ai bien aimé Avengers pour le moment, autant grosse déception. Enfin. Toujours pareil, je dirais, sur New Avengers, quoi. C'est toujours la même série, il a plus rien à en faire.
Alors que moi justement
C'est
c'est
inverse.
l'inverse. J'ai tendance à préférer New Avengers même si ça avance pas énormément comparé à Avengers justement.
Bon, en tout cas, voilà, l'avis est assez mitigé. Et en plus, Secret Avengers, grosse déception aussi, quand même.
Ouais, alors là je suis en retard totalement. Il y a 3 numéros que j'ai pas lu, donc en tout cas sur les 5 premiers, à mon avis, je l'ai dit et redit, voilà, le premier arc est pas très bon à mon goût. Le 5e était pas mal, à voir la suite, quoi.
Dans les deux bonnes séries, en tout cas, c'est toujours Fantastic Four par Hickman qui continue son petit bonhomme de chemin, puisqu'en plus il va avoir le droit à un reboot. Donc bon.
Peut-être, c'est pas encore confirmé que ce soit un reboot finalement.
Ah d'accord.
Ouais, c'est pas confirmé.
D'accord. Bon bah écoute, mea culpa, en tout cas s'il n'y a pas de reboot, mais néanmoins
Non,
cette
mais
série.
ouais, enfin moi aussi je croyais, puis en fait finalement il s'avère que ce sera peut-être pas un reboot, en tout cas ce sera il va y avoir quelque chose, mais est-ce que ce sera un reboot ou pas, on sait pas encore.
En tout cas, cette série, toujours très bonne. Matt Fraction sur Invincible Iron Man, toujours une bonne lecture. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de réussi chez
Ben,
Marvel?
de réussi, la reprise en main par Dan Slott de Spider-Man.
Alors, ouais, c'est vrai que c'est
Bah,
mieux. C'est vrai que c'est une amélioration. Non, non, mais c'est vrai.
et dans les flops de l'année, Omit, One Moment in Time est quand
Oui.
même
Oui.
désespérant.
Oui. Bah, le seul bon arc récent dans Brand New Day, c'était Green Hunt. Voilà. C'est vraiment la seule chose bonne à lire, à mon sens. Donc voilà. Avec maintenant le relaunch Big Time de Dan Slott. Voilà, donc chez Marvel, franchement, grosso modo, on n'a peut-être pas tout fait, mais
Ah,
le.
petite déception pour ma part, Uncanny X-Force, j'ai pas accroché.
Ah oui, alors oui, toute la branche mutante, c'est vrai que Uncanny X-Force, le relaunch est pas terrible.
Je suis pas super à jour sur tout ce qui est mutant, donc c'est pour ça que je vais me garder sur Uncanny X-Force, parce que là, je l'ai lu. Le reste, je suis pas forcément à jour,
Bah,
donc.
moi, disons que j'attends Edge of X. Peut-être que Edge of X va sauver les meubles, va relancer un petit peu l'intérêt des séries mutantes, parce que. Bah attends, si, grosse déception aussi, le nouveau titre X-Men, quoi.
Ouais, Curse of the
Oh
Mutants.
là là, oui. Et puis même
Bon, la
Generation
fin est
Hope.
sortie cette semaine, mais je n'ai pas encore lu.
Generation Hope, j'en avais lu dans Uncanny, hein, j'avais lu le début au fait de cette saga. Pareil, hein, très très ronflant, pas terrible quoi. Donc franchement, la gamme mutante, j'espère qu'on la verra reprendre du poil de la bête en 2011 avec Edge of X peut-être. Bah voilà, donc grosso modo Marvel cette année très très mitigé quoi.
Et puis bah dans les attentes de l'année prochaine, hein, Fear Itself. On verra bien si Marvel arrive à sauver les meubles. C'est aussi pour ça, je pense, qu'ils précipitent un peu peut-être leur event par rapport à ce qui était prévu. D'où le fait de faire une conférence de presse à la dernière minute avant la fin de l'année, pour annoncer quelque chose, pour que les gens reviennent chez Marvel, puisqu'ils voient bien qu'ils sont en perte de vitesse quand on regarde les chiffres de vente par rapport à DC, quoi. DC a grignoté des places cette année et c'est justifié. Donc voilà, c'est je pense aussi pour ça qu'il précipite, et c'est un petit peu ce qui me fait peur sur Fear Itself, que ce soit un peu trop précipité, justement.
Exactement. Surtout que le pitch, en plus, n'est pas, franchement, n'est pas super transcendant, quoi. C'est pas.
Peut-être qu'on aura une bonne surprise, justement.
Bon, on verra, on verra.
Rappelle-toi, Siege, on l'a lu en s'attendant pas à grand-chose et on est plutôt agréablement surpris.
Ouais.
Donc, en partant de ce principe-là, on pourra peut-être être agréablement surpris une fois encore.
Mais néanmoins, il reste le concurrent DC qui, depuis 2 ans maintenant, je dirais, a vraiment remonté la pente, quoi. C'est incroyable. Donc, ils ont quand même énormément de bonnes choses. On commence par quoi d'ailleurs dans les bonnes choses?
Ah bah dans les bonnes choses, il y en a eu tellement cette année. Moi, je sais pas. Enfin, Flash, par exemple, Flash est une très très bonne surprise. Même si on s'attendait à ce que ce soit bon, c'est quand même une très bonne surprise. On a Superboy par Jeff Lemire qui est très très bon.
Oui, alors Superboy, c'est vraiment le Invincible chez DC pour ma part, quoi. C'est vraiment super frais, c'est voilà, si vous aimez Invincible, franchement, mettez-vous à Superboy. Enfin, c'est à mon avis c'est gagné quoi. C'est vraiment très très bon.
Bah, on a toute la branche
Green Lantern,
lanterne, hein,
ouais.
voilà. On a Brightest Day, Justice League Generation Lost, qui sont des
Excellent.
très très bonnes séries. Voilà. Par contre, on a aussi des gros flops chez DC cette année. Ah, non,
Alors
on a quand
attends.
même un super top. Superman Earth One. Je
Alors
veux dire,
attends.
c'est incontournable cette année.
Attends. Alors attends. Reprenons les choses dans l'ordre. Moi, je dirais déjà que chez DC, il y a une nouvelle trinité, au fait. C'est plus Batman, Superman, Wonder Woman, puisque les deux derniers, bah, c'est des
On va en
flops.
parler dans
Oui, on
quelques
va en
secondes, ouais.
parler, ouais. Déjà, bon, bah, Batman, c'est quand même la méga star, même si on n'aime pas tout. Moi, j'adore Batman Streets of Gotham, par exemple. J'ai été assez séduit par Detective Comics, la reprise. Pour moi, c'est vraiment du Batman, c'est vraiment le street level character avec Gotham City autour. Batman Inc. ne m'a pas séduit, mais bon, en même temps, ça rencontre un tel succès que Batman a de beaux jours devant lui. Et je dirais que les deux nouveaux membres de la Trinité DC sont Green Lantern, absolument, c'est devenu la méga
Absolument
star.
incontournable.
Voilà, et Flash, du coup,
Ouais, Flash.
et qui prend la place en quelque sorte de Wonder Woman, quoi. C'est le bon troisième.
Mais
Il
c'est-à-dire
y a qu'une.
qu'on a chez DC aujourd'hui un duo d'auteurs. Et vraiment un duo d'auteurs qui fait vendre. Je mets pas Straczynski dans le lot
Non,
volontairement parce
non.
qu'on va en parler dans quelques secondes. On a Geoff Johns et Morrison. Voilà, ce sont les deux auteurs incontournables chez DC.
Ouais, ici.
De même que chez Marvel, il y a Bendis,
Fraction.
notamment. Bendis et Fraction, qui sont vraiment les deux gros chez DC, quoi. Chez Marvel, pardon.
Bah,
Donc
y en a d'autres. Tu as Hickman qui commence à prendre aussi du galon. Enfin
dans
bon.
les plus importants, les deux plus importants sont Bendis et Fraction,
Ouais.
hein, chez Marvel, et comme là chez DC, ce sont Geoff Johns et Grant Morrison.
Et si on devait prendre un parti, Geoff Jones, quand même, je pense.
Oui, ah bah pour moi oui, évidemment.
Oui. Voilà.
Je suis pas du tout séduit par ce que fait Morrison. Donc bon, voilà, moi dans les flops de l'année chez Batman, The Return of Bruce Wayne. Voilà, bon, ça pour moi c'est un flop. Enfin, vraiment, vraiment pas accroché du tout, quoi.
Non, mais moi non plus. Moi aussi, je veux dire, mais c'est le. Pour moi, c'est pas vraiment le personnage de Bruce Wayne, de Batman, quoi. Les voyages dans le temps, etc. J'ai pas reconnu vraiment Batman là-dedans, quoi.
Voilà. Dans les autres flops, eh ben les Straczynski est un flop à lui tout seul, à l'exception d'Earthswan, hein, comme je disais, qui est quand même un incontournable cette année.
Alors.
Peut-être la meilleure chose de Superman sortie cette année.
Bon. Bah, écoute, moi j'ai pas été autant séduit que toi par Antoine, c'est assez bizarre d'ailleurs. Bon, j'ai bien aimé, mais sans plus. Je m'attendais à beaucoup mieux, au fait, de sa part, et je sais pas. À autre chose, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est un gros coup chez DC cette année, c'est d'avoir su imposer quand même cette gamme d'hardcover. Puisque finalement, ils sont les seuls pour le moment à faire, hein. Marvel ne le fait pas encore, ça.
Non, pour le
Donc,
moment. Mais
on
en même temps, il n'y
attend.
en a eu qu'un, donc.
Ah oui, mais on attend avec impatience Batman, Earthswan, par
Et
Jeff Jones.
puis, et puis, et puis la suite de Superman Earth One aussi
Aussi.
que Straczynski va faire.
Et tu le disais, donc un flop considérable. Superman et Wonder Woman qui se cassent complètement la gueule. Straczynski qui arrive pour finalement repartir 4 mois après. C'est quand même la grosse déception, le gros flop de DC cette année, incontestablement. Enfin, en ce qui me
Un
concerne.
flop qui marche.
Oui. Enfin, oui.
Ça y est.
Oui.
Voilà.
Oui.
Par contre, on va rester dans l'univers Superman. Très bonne surprise d'Action Comics.
Ah oui, alors. Action Comics, c'est autre chose. Je dirais que c'est vraiment, avec Brightest Day et Generation Lost, c'est vraiment en fait le Dark Reign, finalement. On s'attendait à autre chose, et c'est finalement le Dark Reign qui arrive chez DC. C'est-à-dire qu'il y a deux méga stars, Lex Luthor d'un côté dans Action Comics, Maxwell Lord dans Generation Lost, et ces deux titres sont génialissimes. C'est vraiment voilà, une sorte de Dark Reign chez DC, au fait. Alors qu'on s'attendait à un truc super joyeux avec Brightest Day. Et au fait, pas du tout. Pas du tout. Et c'est très
Ah mais
bon.
Jeff Jones avait prévu, hein. Il avait prévenu en disant c'est pas parce que ça s'appelle Brightest Day que ce sera Bisounours Land.
Oui,
Et
voilà.
effectivement, il avait raison.
En tout cas, c'est du très très bon également. Green Arrow, aussi, très sombre.
Green Arrow, ouais.
Très très bon. Et il y a tellement de bonnes choses chez DC qu'il en est même difficile de trouver tellement de mauvaises, quoi, en fait.
Eh ben, pour moi, une déception personnelle, Leavitz sur Legion of Super Heroes. Je m'attendais à beaucoup mieux.
Et Action Comics? Adventure
Adventure.
Comics, pardon. Déception ou pas, finalement?
Déception, ouais. Enfin, on va voir si ça se reprend maintenant qu'on arrête de faire des histoires du passé. Voilà. Une des autres bonnes choses de cette année, l'arrivée avec une aussi grande importance de Jeff Lemire chez DC.
Avec The Atom,
Puisque
et maintenant Superboy.
Diatomo, Superboy. Non, du bon, du très très bon. Puisqu'on est chez DC, on peut aussi un petit peu parler de Vertigo, l'arrivée de iZombie, notamment. Chez Vertigo,
Ah oui.
très très bonne série. Zatanna, tiens, j'ai oublié Zatanna aussi.
Satana,
Cette
Birds of
année.
Prey, qui reste excellent. Gotham City Sirens, si tu m'en parlais l'autre fois aussi.
Aussi.
Donc il y a énormément de séries aussi,
Oui, très très bonne chose, hein, chez DC.
des héroïnes qui fonctionnent, justement. Et ça aussi, c'est bien de le signaler, parce que c'est difficile de faire fonctionner des titres à héroïne, quoi. Voilà.
American Vampire aussi défie la chronique,
Ouais.
défraie pardon la chronique. Je ne l'ai pas lu pour ma part, à part le premier épisode, donc bah, je peux pas en parler quoi. Mais apparemment, c'est du tout bon. De toute façon, ça arrive en français très rapidement.
De toute façon, là, on part vers les séries un peu plus indé, on va dire, mine de rien.
Et t'as vu cette transition quand
Oui,
même?
donc, eh bien, l'une des séries indé qu'on a découvert le jour, enfin le jour, n'importe quoi, la semaine de la sortie dans Comics Weekly, on en a parlé, c'était,
Morning Glory,
bien
c'est
sûr,
vrai.
voilà, Glories, dont on a parlé dès la semaine de la sortie, et on a bien fait, puisque quand même, hein, ça rencontre son public, ça a quand même un bon succès. Donc, il y a eu d'autres bonnes surprises, il y a eu récemment The 27.
Pour toi, ouais, il y avait l'occultiste aussi.
Occultiste, dont on espère, enfin en tout cas je l'espère qu'il y aura une suite en 2011. Donc, je croise les
Pour ma
doigts.
part, j'ai vu 5 Days to Die aussi, qui était vraiment pas mal chez IDW.
Ouais.
Voilà,
Ben,
enfin.
il y a eu pas mal quand même de petites séries, quand même, de petites surprises comme ça au niveau de l'indé. On attend avec une impatience non dissimulée Butcher Baker, n'est-ce pas Steve?
Pour ma part, ce serait plutôt Infinite Vacation, la nouvelle série du scénariste de Morning Glory, justement.
D'accord. Non, non.
Que j'attends avec impatience.
Non, non, mais je plaisantais, évidemment.
Oui, je me doute.
Mais bon, enfin voilà. Donc, quand même, une année intéressante, pas mal de surprises.
Pas de gros flop à signaler du côté de l'indé, puisque pour ma part, moi j'en lis très très peu et je lis que des trucs dont j'ai entendu vraiment beaucoup de bien. Donc pas de flop à
Il y a quand
signaler.
même, il y a quand même à, si on parle de l'indé, on va peut-être parler aussi d'Image. Disons que chez Image, quand même, il y a ce flop toujours sur Spawn, sur Image United qui n'a pas de suite. Donc quand même, ils ont un petit peu de mal. Savage Dragon fonctionne toujours bien. Voilà. Il y a quelques temps, il y a quelques années, ils avaient beaucoup de retard sur la série. Là, Eric Larson a tenu ses délais cette année.
Ah bah ouais, ça fait 2 ans, 2-3 ans qu'il les tient, mais c'est vrai que entre 2003 et 2005, c'est chaotique, quoi. Quand on a à tout péter 10 épisodes en 3 ans, dont certaines fois 9 mois d'écart entre 2 épisodes, faut pas exagérer.
J'en avais lu quelques-uns justement cette année et j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Donc voilà, donc bon bah il y a quand même quoi, ça ah, Invincible, Walking Dead, ne les oublions pas non plus,
Oui, bien sûr.
qui font quand même les joies de j'allais dire de Delcourt, mais pas seulement, enfin,
De l'image, oui, bien
surtout de
sûr.
Image, oui, et des fans, puisque c'est toujours très 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 bon. Et on attend avec impatience les traductions françaises. Voilà, on a un petit peu de retard sur Invincible, on espère que ça sortira un jour en français aussi.
Un petit peu.
Un petit peu, voilà, c'est pour ça que j'ai dit.
50 épisodes, un petit peu.
Ouais.
Allez, si tu devais retenir un top et un flop cette année. Vraiment.
Eh ben,
Ah, c'est difficile, hein, mais un
bah,
top et un flop.
en tout cas, pour le flop, pour moi, ce sera Straczynski chez DC. C'est
Bah, ça tombe bien.
le plus gros flop pour moi parce que j'attendais tellement. Après Thor chez Marvel, j'attendais tellement de son arrivée sur Superman et Wonder Woman que c'est une catastrophe. C'est un flop considérable.
Ouais, bah j'ai exactement le même que toi, donc voilà, comme ça on perd pas de temps. Et le top de l'année.
Le top de l'année, à mon avis, ce sera chez DC. Ah, c'est compliqué quand même, le top de
Ah,
l'année.
mais disons que ce que voilà, 2010 pour toi en comics VO, ça représente.
Moi, c'est quand même diverses choses chez DC, quoi. C'est pas une série,
Ah oui,
c'est
mais
des
un
séries.
top. Un top. Unique. C'est difficile, hein.
Ouais, c'est difficile parce que vraiment, ça dépend des mois. Il y a tellement de bonnes choses. Tu vois, j'ai envie de te dire Generation Lost, qui a été une méga surprise pour moi. Et en même temps, bon, est-ce que c'est vraiment la meilleure série DC du moment?
Non, mais ce que non, mais pas forcément. C'est pas forcément la meilleure, mais selon toi, ce qui remporterait la palme du top, quoi.
Non mais enfin voilà, allez, je vais peut-être te dire, je vais peut-être penser à autre chose après l'enregistrement, donc mais là sur l'instant, je te dirais peut-être Generation Lost, qui a été une grosse surprise.
D'accord. Ben moi, mon top de l'année, même si la fin, c'est difficile, hein. J'aurais bien envie de te citer Morning Glories, mais non, je crois que ce qui remportera la palme pour moi cette année,
Shadowland?
ouais.
Ah ouais.
Malgré la fin, voilà. J'ai été tellement, je l'ai tellement attendu avec impatience ce crossover parce que ça avait l'air monstrueux. Et les premières parties sont tellement géniales. Enfin voilà, c'est pour moi le top de l'année.
Ah bah c'est
Je l'ai
marrant,
dit,
alors
c'est
finalement
un.
c'est un truc Marvel que t'as préféré.
Ben ouais, mais bon,
Je pensais que
c'est
t'allais me
pas
dire
pour autant
Flash ou
que.
Green Lantern ou
Non, parce que ce sont des choses qui, je savais que ce serait bon, et justement, ça me déçoit pas. Là, Shadowland, il avait la possibilité de se casser la gueule. Vers la fin, c'est un petit peu le cas, mais j'ai pris tellement de plaisir à lire, en tout cas, les 3 premières parties. La partie 4 et la partie 5 étaient bonnes, un peu moins, certes, mais elles étaient bonnes quand même. Mais j'ai pris tellement de plaisir avec ces 3 premières parties que, ouais, pour moi, ce sera Shadowland.
D'accord, ok.
Non, puis comme ça classe Marvel un peu dans le top. Sois
Voilà,
content.
exactement. Bon, bah alors, on en a fini avec cette rétrospective VO de l'année, je pense.
Ouais,
On a
un
bien
peu
tout
longtemps.
balayé.
Eh bien, on se retrouve l'année prochaine.
Du coup, oui, c'est vrai.
Ouais. Puisque le prochain Comics Weekly sortira maintenant en janvier 2011. Bah, comme d'habitude, hein, vous pouvez nous laisser les commentaires sur le site, nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr et n'oubliez pas les messages sur le répondeur si vous avez quelque chose à nous dire, à nous faire partager, ou une question, n'importe quoi, au 09 70 440 497. Et puis, bah, tradition oblige, hein, Jingle Bells et compagnie, le mois de la fin. Bon.
Et le mot de la fin, c'est les vacances, il n'y en a pas aujourd'hui, donc je me contenterai d'un, peut-être d'un, allez, joyeux Noël à tous!
Et une très très bonne année.
Voilà.
À l'année prochaine.
Allez, ciao à tous. Bonne année.